cause qui ailleurs les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Ça serait, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Il faut que les deux marchent main dans la main. Et donc au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous explorons le fardeau des maladies infectieuses virales en Afrique. Les virologues africains cherchent des solutions aux maladies virales émergentes et récurrentes. Ensuite, nous verrons ce que la fréquence de vos selles révèle sur votre état de santé. Enfin, la hausse des taux de cancer met au défi le système de santé du Kenya. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les infections virales sont une source d'inquiétude à l'échelle mondiale. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, les infections émergentes telles que la COVID-19 deviennent de plus en plus fréquentes, tandis que des défis persistants comme le VIH et l'hépatite restent répandus, particulièrement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. L'urbanisation, le changement climatique et les voyages internationaux en sont partiellement responsables, affirment les experts. Des virologues venus de toute l'Afrique se sont récemment réunis à Abuja, la capitale nigériane, pour tenir des discussions et explorer des recherches révolutionnaires et des solutions permettant au continent de faire face aux menaces virales émergentes et récurrentes. L'Afrique dépend fortement de l'aide étrangère pour répondre aux épidémies, mais les virologues africains assurent que cela pourrait bientôt changer. Timothy Obiezu nous en parle depuis Abuja.
Avec deux épidémies virales majeures, Marburg et Mpox, en Afrique cette année, les enjeux de cette conférence africaine de 3 jours sur la virologie ne pourraient être plus élevés. Mais les solutions locales au virus et aux épidémies en Afrique sont au cœur du dialogue.
Nous avons des maladies tropicales négligées, un certain nombre de virus qui sont importants. Ils émanent du continent, donc vous découvrez que l'attention des pays occidentaux n'est pas aussi concentrée que nous l'attendions. Normalement, ils disent que l'Afrique a des ressources restreintes ou limitées. Maintenant, nous avons réalisé que nous avons beaucoup de ressources et que nous pouvons exploiter nos propres ressources internes.
Il s'agit du deuxième sommet du réseau des virologues africains, AVN, depuis son lancement en 2019. L'objectif, fournir une plateforme unifiée pour que les virologues africains collaborent, présentent leurs recherches et abordent des problèmes communs. La conférence vise également à promouvoir les solutions révolutionnaires de l'Afrique en matière de virologie, y compris le développement de vaccins pour la santé mondiale.
In this conference, we have
Dans cette conférence, nous avons un certain nombre de présentateurs qui sont des Africains travaillant en Amérique, dans des laboratoires européens. Donc, les virologues africains contribuent à l'effort mondial. Nous formons de nombreux jeunes virologues pour qu'ils se lancent dans ce domaine, pour que dans un avenir proche, nous puissions produire nos propres vaccins et exporter même vers des pays étrangers.
Les participants considèrent que la conférence arrive à point nommé car de nombreux pays africains ont souvent du mal à répondre aux épidémies en raison des ressources limitées. De systèmes de santé défaillants, de la dépendance au système international pour les vaccins et de l'inégalité de l'accès aux vaccins à l'échelle mondiale. Les experts affirment que le changement climatique et les conflits ont exacerbé la propagation des maladies et entravent parfois les réponses. En 2024, l'Afrique a enregistré plus de 34 000 cas confirmés et suspects de Mpox et plus de 850 décès. Adewale Tomori, professeur de virologie, estime que l'Afrique doit miser sur la prévention des maladies plutôt que sur leur contrôle.
Ce sommet est évidemment très important pour l'Afrique. L'Afrique est actuellement au bord du gouffre. Le monde vient à nous très tard, alors que l'épidémie s'est répandue dans tout le pays. Et je pense que c'est notre rôle en tant que virologue. Nous devrions nous concentrer sur la prévention plutôt que sur le contrôle de ces épidémies.
Selon M. Adikou, les virologues africains s'efforcent de mettre au point des vaccins qui proviennent de matières biologiques locales, comme les insectes, et qui peuvent s'adapter au climat de l'Afrique. Selon Adikou, si les gouvernements et le secteur privé financent davantage la recherche, l'Afrique aura un avenir sûr.
Quel virus vous préoccupe le plus en ce moment et que devrait-on faire de plus pour prévenir la propagation des virus dans votre communauté? Voici quelques réactions de la RDC.
L'épidémie qui me préoccupe beaucoup actuellement, c'est le Mpox, parce qu'elle est très contagieuse et si elle continue avec cette intensité dans notre communauté, elle risque de nous exterminer. Pour me protéger, je suis à la loupe les conseils des professionnels de santé, je respecte les mesures barrières et lorsqu'on va nous demander de nous faire vacciner, je ne vais pas hésiter pour ma protection. Il faudrait que les autorités sanitaires intensifient la vaccination, accentuent les campagnes de sensibilisation de masse, mais aussi du fait qu'il se transmet aussi rapidement par les rapports sexuels, il faudrait qu'on rende disponible des lots de préservatifs.
L'assainissement présente un défi dans beaucoup de ménages et fait surgir le choléra dans la ville. Il y a beaucoup d'endroits où l'eau de pluie stagne. Il n'y a presque plus de poubelles dans des parcelles. La densité de la population devient trop forte. Nous buvons de l'eau du lac qui parfois n'est pas aussi disponible sur les robinets. Bref, la population est exposée à l'épidémie du choléra que les autorités ne savent pas contrôler.
J'ai constaté que la propagation du choléra dépend de la négligence de nous, population. Nous ne respectons presque pas les mesures d'hygiène. Et si vous faites un tour dans des camps des déplacés, vous constaterez que les gens sont entassés dans des petites cabanes et cela ne les épargne pas de la contamination. Pour me protéger de cette épidémie, je fais de mon mieux pour toujours respecter les mesures d'hygiène, comme me laver les mains chaque fois après la toilette ou avant de manger.
Lorsqu'il y a beaucoup de poussière que les gens sont censés respirer, ça cause de la grippe. Mais cette épidémie devient inquiétante à Goma suite aux maisons en chantier qui sont presque partout. Dans chaque avenue, il y a des maisons en pleine construction et lorsque le vent souffle, c'est de la poussière qui en ressort. Les habitants jettent aussi des restes de matériaux de construction, comme du ciment un peu partout. Et cela fait que la grippe devienne une épidémie actuellement.
Le choléra devient menaçant dans la ville à cause des difficultés à respecter les mesures d'hygiène. Nous n'avons pas d'eau pour garder nos enfants propres après leurs besoins. Ils mangent aussi souvent sans même se laver les mains et c'est pourquoi ils sont atteints du choléra.
Le docteur Ziodou Orissa est interniste et spécialiste des maladies tropicales et infectieuses à l'Université Arsi d'Éthiopie. Il discute des facteurs environnementaux, sociaux et économiques uniques qui contribuent à la propagation et à l'impact des maladies virales.
Nous avons vu plus de 30 infections virales différentes réapparaître au cours des deux dernières années. Le grand défi est donc, avant tout, de sensibiliser la population. En raison de l'augmentation de la population, l'impact sur l'agriculture est également énorme. le bétail et l'interaction avec le bétail, l'interaction avec les animaux sauvages qui sont à l'origine de l'infection. Ensuite, il y a la méthode de surveillance. Il faut une méthode de surveillance solide qui doit être soutenue par une collaboration nord-sud, car cela nécessitera un certain degré de transfert de compétences et de technologies. L'autre volet concerne les méthodes de prévention. L'une consiste à investir dans le développement de vaccins et de médicaments, à améliorer la qualité de vie, y compris l'assainissement, l'éducation et la malnutrition, qui supprime l'immunité et contribue à l'apparition des maladies graves en général, mais pas seulement, pour les infections virales également. Cela fonctionne donc pour les autres maladies, je veux dire les maladies infectieuses. L'autre aspect est l'amélioration du nombre de travailleurs de la santé. C'est une question qu'il faut prendre au sérieux.
La fréquence de nos selles a-t-elle un lien avec notre état de santé général? La réponse est oui, selon une étude américaine. Une fréquence élevée associée à une inflammation intestinale et à une faible diversité du microbiote peut indiquer un mauvais état de santé. À l'inverse, une faible fréquence des selles est liée à des risques accrus de maladies rénales, neurodégénératives et à l'accumulation de toxines nocives. L'étude, menée sur près de 4000 participants en bonne santé, a également révélé des disparités selon le genre et l'âge. Les femmes, bien qu'ayant un régime riche en fibres, sont plus sujettes à la constipation, tandis que les jeunes et les hommes présentent plus fréquemment des épisodes de diarrhée. La santé mentale joue aussi un rôle. Les antécédents familiaux de dépression ou d'anxiété sont liés à des troubles du transit. Les experts recommandent de consommer des fruits et légumes, rester hydratés et pratiquer une activité physique régulière pour favoriser un transit intestinal. Le cancer est en train de devenir l'une des principales causes de décès au Kenya, où le nombre de diagnostics de cancer connaît une hausse alarmante. Pourtant, malgré les progrès réalisés dans les traitements médicaux, le parcours de guérison reste entravé par deux obstacles majeurs, la stigmatisation et la pauvreté.
Comme beaucoup de personnes au Kenya, Sperenza Maina a nié le diagnostic de cancer du sein, le cachant à sa famille pendant des mois, retardant ainsi le traitement essentiel. Mais le fardeau émotionnel n'était qu'une partie de son combat.
Où trouver de l'argent? Parfois même, quand vous appelez quelqu'un, il ne répond pas.
Chaque séance de chimiothérapie coûte 35 000 shillings kenyans, soit plus de 280 $, un prix trop élevé pour de nombreux patients au Kenya. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, la plupart des cas de cancer sont diagnostiqués à un stade avancé, ce qui laisse peu de choix de traitement aux familles et les pousse souvent à s'endetter lourdement. La stigmatisation aggrave le problème.
Au Kenya, de nombreuses femmes craignent de demander un diagnostic pour des problèmes liés à leur santé reproductive en raison de la stigmatisation. Elles craignent la façon dont elles seront perçues et évitent souvent d'aborder ces questions avec leur famille.
Le ministère kényan de la Santé impute la hausse du nombre de patients souffrant du cancer au manque d'exercice physique, à l'abus d'alcool et au tabagisme. Malgré les difficultés, Sperenza garde espoir. Elle a trouvé du soutien auprès de Mutoni Maina, une autre survivante du cancer qui a lancé ce qu'elle appelle un café du cancer. Il s'agit d'un espace sûr où les patients peuvent parler et trouver du soutien.
Cet espace a pour but de rassembler les femmes pour qu'elles se soutiennent mutuellement et partagent des informations crédibles en normalisant ces conversations. Nous pouvons lutter contre la stigmatisation entourant le cancer.
Mutoni estime qu'il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert au sein des communautés pour sensibiliser au cancer du sein et du col de l'utérus, en particulier dans les zones où la stigmatisation prévaut encore.
C'est ici que conclut notre magazine Santé, votre Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.